Sixième chapitre.
L'uniforme sous le directoire, 1795 à 1799.
Sous le directoire, les troupes ne furent guère mieux vêtues que sous le consulat. L'heure n'était pas encore venue pour envisager de modifier l'uniforme en profondeur et l'on s'efforçait de réparer les existants ou de remplacer ceux qui tombaient en lambeaux. Nous pouvons constater ce minimalisme dans une loi du 7 Germinal en 5 concernant le mode d'admission et d'avancement dans le nouveau corps de la gendarmerie. Cette loi lui conservait son ancien uniforme et lui imposait simplement l'aiguillette aux trois couleurs. La principale préoccupation était de verser les soldes, d'abonder les différentes masses nécessaires à l'entretien des troupes, l'achat et l'entretien des chevaux, l'achat de l'armement, des poudres, etc. En bref, tous les éléments permettant de maintenir une armée d'environ 500 000 hommes sur le pied de guerre. La misère vestimentaire dans laquelle était tombée l'armée ne résultait pas uniquement des problèmes d'approvisionnement en tissus et autres matières, de se lier à leur confection, à leur transport, elle avait un puissant allié qui était l'absence de sens moral. Ainsi par exemple, certains fabricants peu scrupuleux profitèrent du désordre pour expédier dans les magasins de la République des effets de très mauvaise qualité. Les conseils d'administration des corps de toutes les armes s'en étaient fréquemment plaints auprès du ministre de la Guerre qui diligenta une enquête. Hélas, on ne put remonter aux auteurs de ces fournitures faute de signes qui puissent les désigner. Pour faire cesser l'abus, le ministre, dans une lettre du 28 Ventose en 5, enjoignit au bureau central de l'habillement de ne recevoir à l'avenir aucun effet qui ne portât le timbre du fournisseur auquel il rajouta la marque du magasin dans lequel ces effets seraient réceptionnés.
En 4. Une ceinture de couleur pour les généraux.
Dans le tumulte des guerres menées par la République, un arrêté du directoire exécutif du dit Pluvieux en 4, 30 janvier 1796, relatif aux uniformes des officiers généraux et officiers des états-majors des armées, modifia l'arrêté du 26 Prairial en 2. L'uniforme des officiers généraux restait dans son ensemble identique à celui de l'arrêté précédent, mais comportait quelques différences. L'habit était désormais sans revers et boutonné droit. Il était orné du galon d'or dans toute sa longueur pour les généraux en chef. Les généraux de rang inférieur n'avaient la broderie que sur le collet, les parements et les poches, avec un double rang pour les généraux de division et un simple rang pour les généraux de brigade. Une ceinture rouge et blanche ornée d'une frange en or ceignait la taille des généraux en chef qui portaient à leur chapeau un panache rouge élevé au-dessus de trois falettes tricolores. Le général de division portait une ceinture écarlate ornée d'une frange tricolore et avait à son chapeau trois falettes ponceaux, rouge vif, surmontées d'un panache tricolore. Le général de brigade portait une ceinture bleu ciel ornée d'une frange tricolore et avait à son chapeau trois falettes tricolores surmontées d'un panache aux mêmes couleurs.
Conclusion.
Sous le directoire, toute l'infanterie fut vêtue misérablement en raison d'une activité de guerre permanente, de l'éparpillement des corps, du désordre des finances, de la dépréciation des assignats, mais surtout de l'absence de tout principe. Les régiments dissous étaient versés dans diverses armes, ainsi amalgamés les bataillons étaient composés de soldats aux uniformes bigarrés. L'an 8 permit d'apporter une légère amélioration à cette situation, mais l'embellie fut de courte durée. Le désordre persista et il fallut attendre le règlement du 1er Vendémiaire en 12 pour rendre à l'armée tout son lustre. L'uniforme ne cessa de subir de très nombreuses variations consécutives aux événements politiques, à l'amélioration des matières, à l'évolution technologique des armes, à l'installation de troupes dans des contrées aux différents climats, aux nouvelles stratégies développées sur les champs de bataille, etc. Il ne fut jamais abandonné et fut l'un des moyens les plus efficaces pour maintenir le respect de la dignité militaire dans les rangs de l'armée, car l'esprit de corps ne souffre jamais que l'uniforme soit déshonoré par celui qui le porte. Il permit également de supprimer de ses vêtements toute distinction de luxe ou fantaisie afin que l'autorité de chaque grade puisse s'exercer pleinement sans risque d'être humilié et méconnu par l'éclat de la fortune. Les sous-officiers, cavaliers et dragons portaient des marques distinctives relatives à leur grade, emploi ou ancienneté. Les adjudants portaient l'épaulette à fond de soie couleur de feu, traversée, dans le milieu de sa longueur, de deux cordons de tresses d'or ou d'argent, suivant la couleur du bouton. Pour les maréchaux des logis en chef, le double bordé de galons fut remplacé par deux galons d'argent fin placés obliquement sur l'avant-bras. Les fourriers, dont le rang avait été fixé après celui des maréchaux en chef, portaient les deux mêmes bandes d'argent fin, mais placées sur le haut du bras. Les maréchaux des logis portaient un seul galon d'argent sur l'avant-bras. Les brigadiers portaient sur l'avant-bras deux galons de fil blanc, les appointés n'en portaient qu'un. Les cavaliers ou dragons gentilshommes portaient l'épaulette sans frange. Les maréchaux ferrants portaient sur le haut du bras de chaque manche un fer à cheval en galon de fil blanc. Les hommes engagés continuaient de porter le chevron ou le double chevron en galon de fil blanc.